Et selon une étude parue dans la revue Trends in Ecology and Evolution, pour ne pas tomber malade, les animaux eux aussi s'adaptent au virus, Natacha.
En temps de pandémie, les humains ne sont pas les seuls à pratiquer la distanciation sociale. On le voit aujourd'hui, embrassades interdites, port du masque généralisé, gestes barrières, les maladies façonnent notre sociabilité. C'est aussi le cas chez de nombreuses espèces animales. Singes, poissons douces, homards ou souris, lorsque l'un des congénères tombe malade, le comportement des groupes évolue. Chez les mandrilles, par exemple, on voit chez ces primates des stratégies sociales antiparasitaires avec des taux de toilettage qui évoluent selon les infections. Depuis des millénaires, les animaux aussi font face à des crises sanitaires, mais les mécanismes de l'évolution de la socialité sont très peu étudiés. C'est ce que souligne cette étude. Cédric Sueur est enseignant-chercheur à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien du CNRS et de l'Université de Strasbourg. Il est le co-signataire de ce papier.
Les animaux vont pratiquer la distanciation sociale comme les humains pendant le Covid, mais vont aussi faire en sorte de continuer à vivre en société et de communiquer ensemble. Parce que justement, le plus important qu'il y a dans notre système social et les réseaux sociaux qu'on va former, c'est qu'on va avoir d'un côté les maladies qui vont nous empêcher d'être ensemble, de se contacter, si vous voulez, dans le sens vraiment un contact physique. Mais de l'autre côté, on a aussi besoin d'être à proximité pour échanger des informations. Et c'est ça qui est assez intéressant, justement, c'est que chez les humains, à partir du moment où on a dit qu'il y avait cette distanciation physique, eh bien, on a changé, on a switché, et on est allé, par exemple, à l'université vers des échanges qui sont beaucoup plus virtuels en utilisant différentes plateformes. Et ça, c'est aussi intéressant dans le sens où, par exemple, chez les fourmis, on va avoir des maladies qui vont être présentes. Quand il y a des maladies, on va faire une certaine distanciation sociale entre les fourmis, elles vont éviter de se contacter, mais elles peuvent switcher du système qui va être d'échange d'antenne à antenne pour transmettre des informations à des systèmes de phéromones, par exemple, qui vont être beaucoup plus globales. Donc on voit qu'il y a des rapprochements qui peuvent être faits. Il serait intéressant d'aller étudier ces différents systèmes sociaux, animaux, pour s'informer, nous, sur les méthodes qu'on pourrait utiliser dans ces cas de pandémie. Il n'y a pas 36 études qui montrent ça, justement. On a juste quelques études qui le montrent, et je pense que c'est un champ de possibilités qu'il y a devant nous, parce que c'est quand même une pression qui est assez forte. Voilà, il y a des groupes entiers qui peuvent mourir s'il y a une certaine maladie qui arrive. On a vu ça chez des gorilles, on a vu ça chez des chimpanzés, on peut voir ça aussi chez des abeilles, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a une pression qui est assez forte derrière et qu'il doit y avoir des mécanismes de sélection pour éviter qu'il y ait ces écroulements de population. Donc, c'est vraiment un champ de domaine qu'on peut étudier et essayer de voir comment ça se rapproche de nous.
Voilà, si les animaux peuvent le faire, vous aussi, hein, distanciation sociale, port du masque, alors pas le masque pour les animaux. Bref, vous m'aurez compris, vous pouvez retrouver l'étude ainsi que toutes les autres études et plein d'autres liens qui vont compléter votre écoute tout au long de cette heure. C'est comme tous les jours sur notre fil Twitter, @laméthodefc, sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue hier dans Nature Climate Change, la fonte de la calotte glaciaire correspond parfaitement à nos pires projections climatiques.
Nous en parlions déjà sur ce plateau la semaine dernière. Voici une autre étude qui confirme que les scénarios des climatologues se révèlent justes. Depuis la surveillance satellitaire des années 90, les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, qui fondent de plus en plus vite, ont élevé le niveau mondial de la mer de 1,8 cm. Cela correspond au scénario le plus pessimiste du 5e rapport d'évaluation du GIEC, celui de 2014. À ce rythme-là, la fonte des calottes glaciaires devrait augmenter le niveau de la mer de 17 cm supplémentaires d'ici la fin du siècle.
Alors que les enchères pour les fréquences 5G vont être lancées en France ce mois-ci, la Chine rencontre de son côté des complications avec son propre réseau.
Et la Chine compte déjà 100 millions d'abonnés à la 5G et 250 000 pylônes 5G sont installés sur le territoire, sur les 600 000 attendus. Mais ces infrastructures se montrent extrêmement énergivores. Elles consomment 3,5 fois plus d'énergie que les structures équivalentes pour la 4G. Pour remédier à ce problème, la 5G est coupée la nuit. Pour réduire les coûts, l'opérateur China Unicom met en pause certaines de ses stations le soir. Le coût énergétique de la 5G n'est pas une surprise. De nombreux rapports ont déjà souligné ce risque.
Et enfin, dans la revue PLOS Genetics, des chercheurs américains viennent de découvrir de nouvelles cellules gustatives.
C'était un dogme. Il existe 5 saveurs. Le sucré, le salé, l'amer, l'acide et l'umami. 5 saveurs pour 3 types de cellules gustatives qui sont chacune sensibles à certains goûts. Après des manipulations génétiques sur des souris qui ont un système gustatif proche du nôtre, ces chercheurs viennent de faire tomber ce dogme. Ils ont fait la découverte des BR, des cellules gustatives largement réactives. Un sous-ensemble de cellules de type 3 qui peuvent reconnaître toutes les saveurs à la fois. Le fonctionnement du système du goût est donc plus complexe qu'on ne le pensait. Il faut dire que notre survie dépend de notre capacité à détecter les saveurs toxiques à ne pas ingérer.
Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain journal des sciences.